Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien à l'écoute de RDL sur le 103.5 et vous êtes dans votre émission quotidienne, le Minimag. Aujourd'hui, le Minimag est entièrement consacré au jubilé de Guy Rossi qui se tiendra le 30 juin et le 1er juillet prochain. Évidemment, avec nous, Guy est là. Bonjour Guy.
Bonjour Francis.
Alors déjà, je te remercie d'avoir pris du temps pour venir nous parler de ce jubilé, nous parler aussi de, évidemment, de ta carrière. Alors, on va commencer par ça. Alors, évidemment, on t'a baptisé la légende et on saura pourquoi un peu plus tard si quelqu'un a encore un doute là-dessus. Alors, tu as commencé le sport en jouant au volleyball.
Exactement, oui. J'ai commencé très tôt, à l'âge de 8-10 ans. J'habitais Marseille à l'époque et c'est vrai que le volleyball a été mon premier sport et ma première passion. Il suffisait de traverser la rue, j'étais à la plage des Catalans et bien sûr, là, il y avait des terrains de volley. Puis le premier geste, ça a été de prendre le ballon et d'essayer de le passer de l'autre côté. Et puis de fil en aiguille, eh ben, j'ai gravi plusieurs échelons pour en arriver à un certain niveau.
Même en équipe de France, j'imagine.
Non, j'étais trop petit pour espérer jouer en équipe de France, mais bon, ça m'a permis quand même d'avoir de grandes satisfactions de jouer en équipe première en National 1 à l'époque, et puis avoir quelques sélections en équipe de France universitaire et militaire.
Et en même temps, ça t'a permis aussi, à l'âge de 20 ans, de porter la flamme olympique.
Et oui, en tant qu'espoir national de ce sport, eh ben, j'ai eu le grand privilège et honneur de faire partie des sportifs sélectionnés à Marseille pour porter la flamme olympique, et la vraie flamme.
Pour les Jeux de Grenoble de 68.
Exactement, ça fait un bail.
Donc après, ben, tu vas quitter Marseille et tu vas venir ici, à Colmar. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a amené à Colmar?
Tout simplement, j'ai réussi le concours d'enseignant de PS. Et puis, bon, quand vous réussissez, ben, vous allez là où on vous propose d'aller. Et donc, notre poste à mon épouse et à moi, ben, s'est trouvé en Lorraine, à Forbach. Et puis, évidemment, on a essayé les premières années de demander notre mutation. Et pour retourner dans le sud, et puis effectivement, à force d'insister, on a eu le sud de l'Alsace, et depuis on est resté.
D'accord. Et à ce moment-là, tu jouais toujours au volleyball ?
Exact, ouais.
D'accord. Et donc c'est en 85, un peu par hasard, tu vois une pub pour un triathlon à ce moment-là, qui avait lieu à Genève, il me semble, et tu t'es dit, tiens, pourquoi pas ?
Tout à fait, oui. Mais en fait, je m'étais arrêté de faire du volleyball bien avant, puisque j'ai eu un accident assez relativement grave et j'ai eu de la chance de m'en sortir. Et donc, j'ai pratiqué le tennis. Et puis, un beau jour, dans la boîte aux lettres, je découvre une pub. Et voilà, triathlon à Genève. Ah, tiens, c'est pas mal ça. Je suis allé voir mon épouse et j'ai dit, ça te dirait de passer quelques jours au lac Léman. Elle m'a dit, eh ben, pourquoi pas. Et puis on est parti avec nos deux enfants. Et puis l'expérience a été bonne, puisque ça a été le déclic et j'ai continué.
Mais alors donc, tu avais fait déjà une préparation physique avant ce triathlon particulier, ou tu t'es servi de tes acquis?
Voilà, je me suis servi de mes acquis, parce qu'en fait, compte tenu de ma taille, il fallait que je compense par la condition physique. Donc la condition physique, je l'ai toujours eue. Lorsque j'étais en équipe de France militaire, en dehors des entraînements quotidiens, je prenais mes chaussures et mon courage de main et j'allais courir pour essayer de forger une condition physique plus que la normale.
Bien sûr. Alors par contre, c'est là que tu attrapes le virus du triathlon, mais en fait, tu vas te tourner rapidement vers l'ultra-triathlon, parce que finalement, le triathlon, il y a trop de bousculades et ça ne te correspond pas trop.
Oui, effectivement, ouais, les courtes distances, c'était un peu trop violent, et puis c'était devenu un peu l'anarchie sauvage. C'est celui qui bousculait le plus l'autre qui était devant. Et puis bon, j'ai entendu parler qu'il y avait des distances un peu plus longues que l'Ironman. J'ai testé et puis ça m'a plu. Et je trouvais que là, au niveau de l'effort, on pouvait gérer mieux sans se faire mal.
D'accord. Oui, mais enfin, nous, ça nous paraît comme carrément incroyable. Ces distances sont énormes.
Et pourtant, je ne m'arrête pas de dire et d'essayer de convaincre que c'est plus facile qu'une distance courte.
Oui.
C'est une question de gérer son effort, et si on arrive à se gérer, non seulement on se fait plaisir dans le temps et sans se faire mal. Ça, c'est un critère très important.
Alors évidemment, si on compare ça à un sport collectif où il y a beaucoup de fractionnés, là justement, il n'y en a pas du tout.
Exactement. Donc moi, comme je suis anti-fractionné, ça correspond à ma philosophie. Et c'est vrai que mon sport de base, qui était le volleyball, il était basé sur du fractionné. C'est pour ça que j'essayais de compenser en essayant de travailler la condition physique.
Une question qui me taraude, justement, je me souviens que Jean Tigana, on disait qu'il avait 3 poumons et il avait un rythme cardiaque qui était extrêmement bas, je crois que c'était en dessous des 40 pulsations par minute, au repos évidemment. Dans ton cas, c'est combien ?
C'est pas mal, pour un footballeur, être en dessous de 40, ça m'étonne et ça me surprend. Mais ça m'étonne pas, parce qu'à l'époque, je regardais un peu la télé et quand je le voyais jouer, j'étais admiratif. Parce qu'il était de partout, et c'était vraiment, on l'appelait le poumon de l'équipe. De la première à la dernière minute, il lâchait jamais rien. Et je me suis dit, celui-là, c'est vraiment la pièce maîtresse de l'équipe. Et qui bat à moins de 40, alors là, chapeau. Moi, en travaillant forcément l'endurance, on fait descendre la fréquence cardiaque. Et c'est vrai que de temps en temps, j'étais à moins de 40, et puis 45, quoi.
C'est quelque chose qu'on a toujours dans l'esprit, justement, travailler ce rythme cardiaque, le sentir, essayer de le contrôler.
Oui. D'ailleurs, ce que j'essaie d'inciter, de donner comme conseil aux gens qui se lancent dans la course à pied, essayer d'acquérir un cardio de façon à contrôler la fréquence cardiaque. Parce qu'au départ, on part et on ne sait pas où on va. Et puis on me dit, oui, mais bon, je me sentais bien, mais... Entre les sensations et la réalité, il y a un fossé, et ça, il n'y a que le cardio qui peut vous dire exactement où vous en êtes au niveau de votre travail et de vous projeter par rapport à des données qui sont vraiment concrètes.
Oui, voilà. L'expression être dans le rouge, ça arrive justement dans ce genre de discipline où on est toujours justement un peu en dessous de son maximum, de son potentiel.
Le rouge, peut-être sur un triathlon traditionnel, oui, pour un 5 km, 10 km, mais sur une longue distance, sur une durée d'un jour, deux jours, jusqu'à 10 jours, on ne peut pas être dans le rouge, sinon
on finit
pas la peine de faire des compétitions aussi longues.
Alors tu m'as envoyé toute une playlist de morceaux qui te sont chers, évidemment. Alors j'en ai récupéré quelques-uns, je vais te en citer. Alors il y avait La tendresse de Marie Laforêt, La balade des gens heureux de Gérard Lenormand, Carte postale de Francis Cabrel, Donner pour donner de France Gall, L'oiseau et l'enfant de Marie Myriam, Chante la vie de Michel Fugain, Papa au papa de Jean-Claude Darnal, que je ne connaissais pas, pourtant je suis pas tout jeune. Et il y a aussi un Sacha Distel, et on terminera peut-être par Queen avec The Show Must Go On. Parmi ceux que je t'ai cités, lequel aimerais-tu écouter tout de suite ?
La balade.
La balade des gens heureux ?
Ah ouais.
Allez, c'est parti, on se retrouve
m'a accompagné plusieurs fois dans des triathlons.
Ah bah tu nous en parleras justement de la musique et du sport juste après. Allez, on écoute Gérard Lenormand.
Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade. Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu? Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes. C'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut, tu viens de chanter la ballade des gens heureux. Tu viens de chanter la ballade des gens heureux.
Voilà, c'était Gérard Lenormand. On est de nouveau en direct avec Guy Rossi. Alors Guy, la musique forcément a fait partie de ta carrière. Et justement, cette chanson, qu'est-ce qu'elle te rappelle comme souvenir ?
Elle me rappelle d'énormes souvenirs, des compétitions. Cette musique qui m'a accompagné dans des moments assez difficiles. Enfin, difficiles, c'est pas dramatique, mais bon, la fatigue, tout ça. Et puis, le réconfort, ça me rappelle le réconfort des équipiers, de mes enfants, de mon épouse.
Je comprends. En 88, tu participes à la première édition du défi mondial de l'endurance. C'était un triple ultra triathlon. Donc ça correspond à 11 km dans l'eau, 540 km à vélo, 126 km de course à pied. Cette première participation, alors comment ça s'est passé ?
Ça s'est très bien passé. Je me souviens d'avoir fait troisième, mais auparavant, j'aimerais parler quand même de ces 3x8 que j'ai commencé à faire à Colmar.
Bien sûr.
Je sais pas si tu as prévu d'en parler.
Si, bien sûr, parce que ça a été ton record du monde que tu as eu à Colmar.
Oui, mais en fait, le premier. C'est le départ de toutes les années d'ultra-distance. C'est-à-dire que j'ai commencé à Colmar tout seul, comme un grand, à faire ce genre d'activité que j'ai connu suite à une compétition que j'ai faite dans les Alpes, un pentathlon des neiges. Et un gars me disait, mais j'ai fait un 3x8. J'ai dit, ah bon, c'est quoi, etc. Et puis il m'a raconté et je me suis dit, en rentrant à la maison, pourquoi pas le tenter. Et donc je l'ai tenté à Colmar. Et puis ça a été fabuleux parce qu'il y a eu une effervescence autour de cette tentative qui a été mémorable. Et 32 ans après, je boucle la boucle avec la même compétition, c'est-à-dire en 3x8. Mais là, ça ne sera pas en cherchant une performance. La performance, elle viendra des gens qui viendront. Et ça, c'est...
Oui, parce que justement, tu invites les gens, tu invites tout le monde à participer à ce 3x8. Et donc, il faut s'inscrire sur le site Sport Chrono, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, pour mieux gérer le flux, s'il y a un flux conséquent, quoi. Donc, la mairie qui a investi beaucoup en énergie pour organiser ce jubilé, et d'ailleurs, je la remercie, le service des sports, Patrick Vetli, le service de la com, qui fait un travail colossal. Il y a Patrick Leroy qui est venu s'ajouter et qui est aussi... s'investit énormément pour que cette rencontre soit la plus réussie possible. Et voilà, donc j'aimerais qu'il y ait suffisamment de monde, que je, je retrouve des gens qui se sont manifestés il y a 30 ans ou plus et que je les revois et que je les remercie pour le soutien de loin ou de près qu'ils ont eu envers moi. Et donc, il faut s'inscrire. Donc, la municipalité a sollicité une société pour gérer ça de façon à bien gérer le flux. Et parfois, il y a une méprise hein, au niveau des personnes qui disent « mais je ne vais pas m'inscrire, je ne fais pas de sport, tout ça, mais j'aimerais bien venir ». Il faut les rassurer en leur disant qu'ils peuvent venir, ils peuvent échanger, c'est le but. De se jubiler, c'est d'échanger, de rencontrer des gens. Le sport, c'est un moyen de communiquer. Et là, j'ai pas la préoccupation de faire une performance sportive, mais la performance humaine, rencontrer un maximum et rencontrer des gens que j'ai croisés et que j'aimerais bien rencontrer un peu plus longtemps.
À cette occasion. Alors évidemment, oui, on peut se mettre à l'eau avec toi, on peut aller faire du vélo avec toi, on peut aller courir avec toi, mais on n'est pas obligé de faire ça pendant 2 jours. On est d'accord.
Pas du tout, non.
Voilà,
non,
puis je pense qu'il y a très peu de monde qui pourrait te suivre sur 24 heures.
Aussi maintenant, je crois que oui. mais bon, j'ai décidé de venir barboter, donc il n'y a pas de souci. Le maître nageur, je l'ai tranquillisé, je vais nager en combinaison, donc en principe, je ne devrais pas couler. Pour le vélo, pour faire du surplace, je prévois presque de mettre deux roues derrière pour essayer de faire du surplace. Et en course à pied, ben, c'est pas de la course à pied, ça sera de la marche en fonction des gens qui viendront, petits et grands, et puis jeunes ou moins jeunes, beaucoup moins jeunes.
Voilà, évidemment aussi. Non, parce que là, c'est vraiment, oui, c'est plus de compétition. Il n'y a pas, comme tu dis, il n'y a pas de record à tenter. C'est vraiment un jubilé, quoi. Voilà, un moment de partage, comme tu dis.
Voilà, la fête.
Alors, on va pas citer tout ton palmarès, hein, c'est trop long et puis ça intéresserait pas tout le monde. Mais voilà. Est-ce qu'il y a quand même un titre en particulier que tu gardes en mémoire plus que les autres?
Pour moi, c'est toujours le dernier. Donc le dernier, ben, je l'ai fait il y a 2 mois aux États-Unis. J'ai fini en 36h05. Les organisateurs m'ont fait grâce des 5 minutes. Ils auraient pu me dire, même sur aussi, c'est 36h et pas 36h05. D'autant plus qu'il y a eu pas mal de triathlètes, beaucoup plus jeunes que moi, qui n'ont pas pu terminer parce qu'ils étaient hors délai, mais bon, pas de 5 minutes. Hein, c'était plus d'un tour, 2 tours, 3 tours, etc. Donc, personne n'a rouspété en disant « Oui, mais Rossi, lui, on lui permet de rester. » Et nous, non, au contraire, j'ai été bien. C'était une arrivée fabuleuse. Il y avait des gens qui sont restés là, il faisait nuit. Donc, j'ai pas eu droit aux belles photos d'une arrivée en plein jour, mais c'est pas grave. Le souvenir reste gravé. Donc, c'est au niveau performance sportive, 36 heures, j'ai jamais fait, mais c'est mon meilleur souvenir quand même.
D'accord. Quand on est sur des épreuves aussi longues, qu'est-ce qui se passe dans la tête? À quoi on pense? À qui on pense? Comment ça se passe?
Eh bien, on pense à pas mal de choses, hein, parce que c'est jamais creux. On pense à la performance qu'il faut réaliser pour aller jusqu'au bout sans se faire mal. On pense aux enfants, à la famille, aux amis, à ceux qui vous aident de loin et qui vous supportent et qui ont tout fait pour que j'arrive à faire ce genre de compétition. Donc, c'est jamais vide et puis ça permet de continuer, mais toujours en gardant le souci de ne jamais me faire mal.
Oui, ça c'est obligatoire. Mais est-ce qu'il y a des moments où on a envie de renoncer pendant la compétition?
Absolument, absolument.
Souvent.
Alors là, si je suis loin de la famille et qu'il y a le téléphone qui est là, qui aide énormément. Et ça, le téléphone, ben, il existe depuis des décennies. Et heureusement, bon, c'était un peu plus cher avant que maintenant, mais ça sert beaucoup.
Alors, tu es le seul à avoir terminé les 11 DK Ultra Triathlon auxquels tu as participé. Ça, c'est juste énorme, quoi.
C'est énorme, tout est relatif. Je suis prêt, je me suis préparé pour ce genre d'épreuve, donc pour moi, ça ne me semble pas être extraordinaire.
Non, mais pour toi, rien n'est extraordinaire. Avoir fait 2 fois le tour de la planète, pour toi, c'est normal.
Ben, je sais pas, il y a un journaliste qui m'a dit, si on faisait le total, si, ben, j'ai fait le total et c'est vrai que il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte que ça faisait deux fois le tour de la Terre, mais sinon, ça m'a jamais préoccupé.
C'est pas de la fausse modestie, c'est juste vraiment ce que tu penses, quoi.
Ah oui, tout à fait.
Voilà. Non, mais je.
Et puis j'ai sorti un petit aide-mémoire pour essayer de me souvenir des chiffres, parce que les chiffres, pour moi, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Et j'ai du mal à les garder parce qu'il y a plus important que ça dans la vie.
Évidemment. Et on va revenir à la musique. Et tout à l'heure, on parlait en off d'un morceau dont tu nous parleras aussi juste après l'avoir écouté. C'est Dust in the Wind du groupe Kansas. On l'écoute et on en reparle.
D'accord.
Allez,
merci.
C'est parti, je t'en prie. Donc ça commencera. On va passer aux informations pratiques pour pouvoir participer avec Guy. Donc ça va commencer le 30 juin à 16h au stade nautique. Donc là, évidemment, comme cette discipline l'impose, tu vas nager pendant 8 heures.
Voilà. Donc, mais pas non-stop parce que j'espère que je vais rencontrer des enfants, des adultes, des personnes un peu plus âgées et puis que je pourrai faire des échanges avec eux, m'arrêter, et puis donc le kilométrage ne sera pas l'objectif prioritaire, mais rencontrer, s'il faut barboter pendant quelques mètres, je le ferai avec plaisir, s'il faut s'arrêter un petit moment pour échanger, je le ferai avec plaisir.
D'accord. Après, donc à minuit, tu passeras au vélodrome du Ladoff, donc là tu vas y passer la nuit, jusqu'à 8h du matin.
Voilà. Alors là, ça sera un peu plus délicat parce que le vélodrome, effectivement, c'est pratique pour nous. Je l'ai déjà fait 3 fois là-bas. La piste est un peu étroite, donc il va falloir gérer au mieux. Et récemment, il y a un gars qui m'a dit « Ah, je vais vous suivre ». Et j'ai dit « Non, il ne faudra pas me suivre. Il faudra être à côté, discuter, mais suivre, non, c'est pas ça. Je vais essayer d'échanger. » Donc. Je vais essayer de faire des tours et échanger de personnes avec qui elle aimerait échanger un peu avec moi.
D'accord, donc la préparation physique, là, cette fois-ci, elle est quand même plutôt légère, alors, pour cet événement, j'entends.
Oui. Je pense que je suis plus préoccupé à ce que ça se passe bien, oui, voilà. Que les gens soient heureux en venant et en partant. Et en ce qui me concerne, tant pis, je ferai en fonction des capacités du moment qui sont peut-être loin de ce que j'aurais aimé, mais ce n'est pas grave.
La performance n'est pas à l'ordre du jour. Donc, comment tu t'es préparé par contre pour le dernier double ultra-triathlon que tu as fait ? C'était en Floride, dont tu nous as parlé tout à l'heure. Là, par contre, c'était un entraînement traditionnel.
Oui, mais apparemment, compte tenu de la performance que j'ai faite, tu vois, la préparation a été pas en rapport par rapport à la distance et on peut pas, on récolte que ce qu'on on récolte, oui, ce qu'on a semé et donc la préparation a été pas trop, c'est une douzaine d'heures semaine, c'est un peu léger pour faire une épreuve comme ça, mais bon, j'ai
oui.
pas.
Mais c'est déjà pas mal, parce que au départ de ta carrière, dans ce genre de discipline, tu étais entre 30 et 35 heures d'entraînement par semaine.
Ouais, là c'était un peu de la folie, je voulais arriver à un certain niveau, mais bon, on n'a rien sans rien. Et je me suis rendu compte qu'à ce niveau-là, à ce stade-là, ça devenait un peu dangereux. Donc j'ai réduit, en gardant quand même des résultats assez corrects.
Oui, à peu près, tu es tombé à 18 heures par là d'entraînement par semaine, plus ou moins. Mais ça nous fait rêver, évidemment, parce que c'est quand même un sacerdoce, quoi.
Oui, non, je pourrais m'en passer. Hein, on me dit, mais bon, si vous ne faites pas de compète, ça va vous rendre malade. Pas du tout. Hein, tout est basé sur le mental. Je dis non, quand on est prêt physiquement, le mental, il fonctionne bien. Mais c'est le mental, il vous sert à sortir le soir quand il pleut, quand il neige, quand il fait chaud, quand il fait froid. Là, oui, le mental est important, mais sinon, après, une fois qu'on est préparé, le mental, il suit, hein, parce que le physique, il est costaud.
Mais il faut quand même garder dans l'esprit qu'il faut avoir envie de se faire mal, quand même. Ça, c'est pour tous les sports.
Ça, c'est pas un terme que...
Non, t'aimes pas ça, je sais bien.
Non, si j'ai mal, je m'arrête. Non. Non, tout est fonction du volume de travail que vous vous imposez. On ne peut pas avoir mal si on est bien préparé, si le volume de travail vous permet de faire ce genre d'effort.
Et même après 10 jours de course, c'est pas vraiment de la douleur, c'est de la fatigue.
Exactement.
Plus de la fatigue, oui.
De la récupération, elle est plus ou moins rapide en fonction de votre préparation.
Et comment sont justement organisés les temps de récupération tout au long d'une période comme ça de 9 ou 10 jours? Comment tu gères ça? C'est des arrêts de combien de temps? Ça dépend? C'est quand même assez fixe?
Oui. Ben ça, on gère comme on peut, comme on le veut et parfois comme on peut. Et c'est en fonction de la fatigue, c'est en fonction de la tactique. Ça dépend de l'objectif qu'on s'est fixé pour ce genre de compétition. Mais bon, après, on prévoit un programme et puis le programme, il est plus ou moins modifié en fonction des événements sur le terrain. Et ça change constamment. Il faut s'adapter et puis il faut essayer de faire au mieux pour éviter de se faire mal.
Toujours, c'est vraiment une notion qui t'a guidé pendant toute ta carrière.
Pour essayer de se projeter chaque fois et de se dire, c'est pas une fin en soi, mais un moyen de se faire plaisir de façon à pouvoir... faire la saison qu'on s'est imposée.
Est-ce que c'est un sport où il y a de la solidarité entre athlètes?
Ah, énormément.
Oui. Énormément.
Ah oui.
Contrairement au sport collectif que tu as pu pratiquer aussi, ça n'a rien à voir?
Non, oui, c'est vrai, c'est pas la jungle. S'il y en a un qui tombe dans un fossé, on s'arrête pour aller l'aider à sortir du fossé. Ça, c'est, Ça coule de source. Hein. Quand vous êtes en voiture, vous voyez quelqu'un qui a un accident, vous ne pouvez pas continuer à rouler. Donc,
bien sûr.
faut s'arrêter, c'est pareil. Ce que vous faites dans le sport, vous le faites aussi dans la vie.
Il y a des sports où justement il y a eu parfois des polémiques au sujet de voilà, quelqu'un qui tombe et qu'on ne vient pas secourir.
Ouais, ça doit arriver, ça a dû arriver, oui, mais j'ai oublié.
Bon, tant mieux, on n'en parlera pas alors. Bon, il nous reste plus qu'une minute et demie malheureusement.
Déjà ?
Eh oui, ça passe vite, on aurait pu faire une heure. J'avais pensé qu'on pouvait aller bien plus loin si en plus Pascal avait été là, mais Pascal Leroy malheureusement a été retenu par son travail.
C'est dommage, et puis en fait, je suis content parce que sinon, quand il prend le micro, je ne le lâche plus.
Donc, c'est vrai.
J'aurais pas pu parler. Non, je plaisante.
Bien sûr, mais il a un talent fou, et puis on a pu encore l'apprécier au 8e foulée de la Ligue. Ça a été absolument énorme avec 5000 participants. C'était absolument génial.
Ah,
donc, on remercie tous ces bénévoles qui ont œuvré au succès de cette manifestation. C'était absolument génial.
Il ne faut pas oublier que sans bénévoles, on n'arrive à rien.
Ben oui, c'est clair. Et donc, voilà, encore une fois, je tiens à les remercier. Donc ce jubilé, ben on sera là évidemment, soyez là aussi, vous pouvez encore vous inscrire, donc c'est sur le site sportchrono.fr, donc évidemment il n'y a pas de performance physique, c'est juste un moment de partage avec Guy, et voilà, c'est important d'être avec lui, et on sent bien qu'il y avait beaucoup d'émotions dans ce jubilé, et ça te tient très à cœur, et là t'arrêtes que ça arrive.
Oui, j'espère que les gens sont contents, et c'est mon but, mon objectif, c'est que les gens que j'ai plus vus depuis longtemps soient heureux en venant et en partant. Et je pense que là, ça sera le plus beau cadeau que je pourrais avoir.
Eh bien, je pense que ça va bien se passer. En tout cas, il y aura beaucoup de monde, j'en suis persuadé. Merci Guy d'être venu parler de ce jubilé. Et
avec
puis, on te retrouve dans quelques jours sur le terrain alors. Et puis, de toute façon, tu es le bienvenu quand tu veux, évidemment.
Merci.
Je t'en prie. À bientôt. Allez.
Au revoir.
Bye bye.